Bonjour, je suis Céline Kallmann. Bienvenue dans le titre à la une, avec aujourd'hui le projet fou d'un adolescent de 16 ans. Interpellé en Haute-Savoie, mardi 23 avril, ce mineur est soupçonné d'avoir voulu commettre un attentat pendant les Jeux Olympiques à Paris. La justice antiterroriste est saisie du dossier. Marigné, commune de plus de 6000 habitants, nichée en Haute-Savoie, au nord d'Albertville. C'est dans cette petite ville que ce mardi 23 avril, les forces de l'ordre arrêtent un garçon de 16 ans, chez lui, chez ses parents.
Serait-il allé jusqu'au bout? Un jeune Haut-Savoyard de 16 ans est donc en garde à vue depuis hier. Il a été interpellé au domicile de ses parents à Marigné. Il est soupçonné d'avoir envisagé, préparé un attentat à la défense pendant les Jeux Olympiques de Paris.
Le jeune homme était déjà suivi pour radicalisation. Il avait écrit sur le réseau social Telegram qu'il cherchait à se procurer les éléments nécessaires pour fabriquer une ceinture explosive afin de mourir en martyr.
À Marigné, les habitants interrogés par BFM TV sont stupéfaits.
Très étonné. On est une toute petite commune de plus de 7000 habitants, hein. C'est tout petit. On se connaît tous entre nous, c'est certainement un jeune qu'on a vu grandir entre nous, mais jamais eu d'histoire auparavant telle que celle-là.
Ouais, on est un peu en effervescence, on se pose quand même beaucoup de questions quand même, parce que c'est une petite commune, tout le monde se connaît. On n'a jamais eu de cas comme ça, même en écho, on n'a jamais entendu des enfants se dire « je me radicalisais », donc c'est vrai que ça fait un peu flipper, ouais. Surtout qu'en plus, demain, on est en plein en Marnay en fait. C'est festif, donc c'est vrai qu'on se dit, il y a comme des attentions malsaines derrière, ça aurait pu se passer demain ici, voilà quoi.
La police judiciaire a en fait été saisie par le parquet local, à la suite d'un signalement visant des propos inquiétants publiés par cet adolescent de nationalité française. Des propos tenus sur une chaîne de la messagerie sécurisée Telegram. Dans ces messages, le mineur cherchait visiblement à se procurer du matériel pour confectionner une ceinture explosive. Alexandra Gonzalez, chef adjointe du service police-justice de BFM TV.
La personne qui le postait demandait à se fournir une ceinture explosive, donc en vue de commettre un attentat au nom du califat islamique, donc au nom de Daesh.
Lorsque l'adolescent est arrêté chez lui, les enquêteurs mènent une perquisition au domicile familial. Et ils ne vont pas repartir bredouille.
Lors de la perquisition, les policiers ont d'ailleurs trouvé une lettre d'allégeance à l'État islamique. Le parquet national antiterroriste a ouvert une enquête pour association de malfaiteurs en vue de la préparation de crimes d'atteinte aux personnes.
Le téléphone portable de l'adolescent est aussi saisi pour être analysé. Selon le journal Le Parisien, en garde à vue, le garçon a admis vouloir commettre un attentat pendant les Jeux Olympiques avec un fusil et une ceinture explosive. Il aurait précisé qu'il ciblait le quartier d'affaires de la Défense dans les Hauts-de-Seine. Son objectif était ensuite de mourir sous les balles des forces de l'ordre. Une source judiciaire indique toutefois au Dauphiné libéré que la prudence s'impose concernant ces éléments, qu'aucune certitude ne s'est encore dégagée sur une éventuelle cible. Quoi qu'il en soit, la garde à vue de l'adolescent peut durer jusqu'à 96 heures, autrement dit jusqu'à samedi matin. Le parquet national antiterroriste précise qu'elle vise à déterminer la réalité du projet d'acte terroriste et, le cas échéant, son état d'aboutissement. Comment un garçon, âgé de 16 ans seulement, peut-il en arriver à imaginer perpétrer un attentat, à mourir en martyr, à écrire dans sa chambre d'adolescent une lettre d'allégeance à l'État islamique? Laure Westphal, docteur en psychopathologie et enseignante à Sciences Po, avec Maxime Switek sur BFM TV.
En général, il y a plusieurs facteurs qui contribuent. Il y a souvent des problèmes affectifs, des problèmes familiaux, des problèmes d'insertion, en tout cas un sentiment d'injustice. Et c'est souvent sur la base d'un sentiment d'injustice qu'ils adhèrent à une idéologie politico-religieuse comme celle-là qui leur permet de penser, réparer quelque chose en eux et dans le collectif. Alors certes, ils sont seuls chez eux en train de regarder des vidéos de propagande, mais en fait, ça fait appel à quelque chose de collectif. Ils pensent participer à un projet collectif.
Oui, c'est carrément de rétablir... c'est comme investi d'une mission, quoi.
Voilà.
Il y a aussi la composante héroïque, spécifique à l'adolescence, précise Laure Westphal.
Souvent, l'adolescent se sent extrêmement sensible à ce qui se passe dans le monde, aux violences qui percutent chacun, et il peut se sentir investi de la mission de contribuer à réparer quelque chose, parce que de son point de vue, c'est ça. Et il se sacrifie lui-même, parce que c'est quand même un projet suicidaire aussi, hein, comme il faut le dire. Donc, il se sacrifie. Et il a un projet meurtrier, les deux étant destinés pour lui à mourir, donc en martyr et en héros.
Alors comment faire pour repérer un individu tout proche de passer à l'acte ? Il faut savoir que les renseignements sont particulièrement présents sur les réseaux sociaux, et notamment la DGSI, la Direction Générale des Services de la Sécurité Intérieure. La DGSI, composée majoritairement de policiers, est rattachée au ministère de l'Intérieur. Benjamin Dubois.
4500 agents environ et un budget de 100 millions d'euros à la DGSI. Il y a des investigateurs en cybercriminalité qui sont donc chargés d'identifier les auteurs de menaces. Sur la messagerie sécurisée Telegram utilisée par ce jeune de 16 ans, la police peut identifier rapidement les téléphones et les adresses IP des suspects. Des faux profils sont aussi utilisés pour pénétrer des groupes de discussion fermés et donc pour obtenir du renseignement.
Christophe Perry est le maire de Marigné, où vit le jeune de 16 ans qui a été placé en garde à vue. Il s'est confié au Dauphiné libéré. Il assure qu'il n'était pas au courant de l'intervention effectuée dans sa commune. C'est toujours surprenant quand même, mais on se rend compte aujourd'hui qu'on est plus épargné par ces problématiques-là. Il n'y a pas qu'à Paris, on est tous concernés. Le maire évoque la possible influence des réseaux sociaux et le jeune âge du suspect. Je pense qu'il y a un endoctrinement qui se fait aussi sur les réseaux sociaux. Ça peut être une explication. C'est un âge où les jeunes se recherchent. Je pense que les gens qui les embrigadent jouent là-dessus. Le journal La Croix, datant du 18 décembre dernier, écrit ceci. En 2023, la DGSI a déjoué 3 attentats qui tous impliquaient des moins de 20 ans. Le plus jeune avait 13 ans et 2 autres, 14 ans. Face à la menace que représentent ces adolescents, il existe un numéro vert, un outil important parmi d'autres pour repérer l'amorce d'une radicalisation au sein de la sphère privée. Le 0800 005 696. Plus de la moitié des appels émanent de familles, notamment de parents, qui s'inquiètent de la trajectoire prise par leur fils ou leur fille. C'est ce qu'explique le responsable du Centre national d'assistance et de prévention de la radicalisation. Bonjour Jérôme Poirot.
Bonjour.
Consultant BFM TV sur les questions de terrorisme, vous êtes ancien adjoint du coordonnateur national du renseignement de l'Élysée et vous êtes auteur notamment du livre « Le renseignement français en 100 dates » chez Perrin. Un jeune de 16 ans, interpellé mardi en Haute-Savoie, un mineur qui avait été repéré après avoir posté des messages sur Telegram, messages dans lesquels il disait vouloir confectionner une ceinture explosive pour cibler le quartier d'affaires de la Défense pendant les JO. La justice antiterroriste saisi du dossier et c'était suffisamment sérieux pour que ce garçon soit arrêté et placé en garde à vue.
Ah oui, bien sûr. Vous savez, quand on est à ce stade où on recherche des explosifs en postant des messages sur les réseaux sociaux, c'est que manifestement le projet qu'il avait en tête était un projet assez mûri. Et d'ailleurs, l'enquête avec la perquisition qui a eu lieu au domicile de ses parents a permis de trouver un message dans lequel il faisait allégeance à l'État islamique. Donc oui, le projet était vraisemblablement très sérieux, relativement avancé, puisqu'il en était au stade où il cherchait les armes qui auraient permis de tuer.
Ça s'est passé dans un petit village, en Haute-Savoie. Évidemment, les habitants sont sous le choc. On imagine que les parents du garçon le sont tout autant.
Alors, on ne sait rien de son environnement familial. Ça, c'est un sujet très important. Est-ce qu'il était dans une famille musulmane ou non, radicalisée ou non ? Fréquentait-il une mosquée ? Enfin, tout ça peut avoir joué un rôle dans le fait qu'il se soit lui-même radicalisé et qu'il ait basculé dans la préparation d'un projet d'attentat. Mais aucune ville, aucun village n'est épargné en France ou en Europe. On l'a vu, il y a des foyers de terroristes djihadistes dans des villes moyennes, partout en France, mais aussi partout en Europe. Le monde du terrorisme a radicalement changé, notamment du fait de l'Internet et des réseaux sociaux, c'est-à-dire que les contacts peuvent être pris depuis n'importe quel endroit, avec tout ce qui permet de se radicaliser, bien entendu.
Nous verrons dans un instant comment le jeune homme est repéré, mais d'abord, comment est-ce qu'un ado de 16 ans peut se retrouver dans une telle position ? Alors, vous l'avez dit, on ignore tout son environnement familial pour l'instant, mais quel est le cheminement intellectuel, vouloir mourir en martyr pour une telle idéologie ?
C'est vraisemblablement lié à l'âge de l'adolescence, qui est évidemment pour tout le monde. Tout le monde est passé par là, une période de perturbation, de perte de repères, de cherche d'idéaux. Et il se trouve que dans les sociétés occidentales, eh bien, l'idéal qu'offre le combat djihadiste est un idéal qui peut être particulièrement attractif. C'est une sorte d'aventure. Enfin, je dis tout ça avec beaucoup de précautions, bien entendu. Mais c'est accéder à quelque chose qui est réservé à une sorte de catégorie très particulière de personnes. Donc, mourir en martyr, c'est effectivement mourir. Mais enfin, il y a chez beaucoup d'adolescents des tentatives de suicide ou une sorte de tentation. Voilà, d'aller vers le suicide. Évidemment, beaucoup de jeunes ne passent pas à l'acte, mais c'est cet âge aussi où on est plus fragile. Et donc, ce djihadisme d'atmosphère, c'est-à-dire toute cette propagande qui est extrêmement puissante, qui est permanente, eh bien, peut être attractif pour un jeune qui souhaite avoir une vie et une mort tout à fait exceptionnelles. Mourir en héros, mourir en martyr.
Il y a quelques semaines, Jean-François Ricard, qui est l'ancien procureur national antiterroriste, il parlait de cette tendance que de plus en plus de jeunes sont attirés par le groupe terroriste État islamique. Pourquoi ?
Oui, et il disait même de très jeunes. Parce que c'est, à mon sens, deux effets qui se cumulent. C'est l'effet de cette propagande que j'évoquais, qui est extrêmement bien faite, qui sait trouver les ressorts chez les jeunes pour les attirer dans cette dynamique. Et puis, c'est lié aussi, je l'indiquais à l'instant, au fait que quand on est jeune, préadolescent, adolescent, on est perturbé, donc on est à la recherche d'idéaux. Alors, une époque, c'était plus simple. Hein. Dans toute l'Europe, il y avait deux principaux idéaux. La religion, principalement l'Église catholique, et puis le Parti communiste. On voit ça dans les films de Don Camillo. Mais voilà, ça structurait très fortement la société. Aujourd'hui, tous ces grands idéaux sont beaucoup affaiblis. Et donc, il y a une nouvelle religion avec ce radicalisme très agressif et ce djihadisme pour toute la frange terroriste qui peut, évidemment, attirer des adolescents.
Vous parlez de propagande du groupe État islamique. C'est une propagande indirecte. Comment un gamin se retrouve sur son ordinateur et se dit « Tiens, ce message me parle ».
En général, ça commence par le fait qu'on a autour de soi des gens qui eux-mêmes lisent et sont abonnés à toutes sortes de choses qui sont de la propagande djihadiste. Donc, et puis progressivement, bien, on entre dans cet univers-là.
C'est sectaire, c'est comme une secte.
Ah, c'est oui, on peut comparer ça à une secte. Il y a une forme de prise en main de l'esprit des individus, là on parle de jeunes qui sont concernés, et effectivement, progressivement, on leur met en tête toutes sortes de messages, toutes sortes d'idées qui consistent en gros à combattre pour la défense des musulmans, à tuer les infidèles, et les infidèles dans cette propagande, ce sont les croisés, donc les chrétiens, les juifs, bien entendu, le grand Satan, les États-Unis, et puis des petits satans comme Israël, ou comme la France. Donc cette propagande, elle est très bien faite, c'est très sophistiqué, mais vous savez, la propagande, ça a toujours marché. Ça a marché pendant l'Allemagne nazie, ça a marché pendant l'URSS. On subit ici en Occident aussi la propagande russe qui est extrêmement puissante. Donc oui, la propagande djihadiste, elle est très bien faite. Elle utilise les ressorts classiques de la propagande et elle arrive à prendre en fait le contrôle d'un certain nombre d'individus pour les amener à faire des attentats.
Dans ce cas particulier, comment est-ce que les enquêteurs tombent sur ces messages? Comment faire la différence entre des mots postés en l'air, comme ça, en disant « je vais me foutre en l'air sur le parvis de la Défense en me faisant exploser » et un passage à l'acte concret? Comment on fait la différence?
Là, manifestement, il y avait suffisamment d'éléments. Ce qui a été révélé par les autorités n'est évidemment pas tout de ce qu'ils ont collecté aujourd'hui comme information et comme renseignement, mais le fait de poster un message indiquant qu'on est à la recherche d'armes et de matériel pour confectionner une ceinture explosive, c'est quelque chose qui n'est quand même pas très courant. Et puis l'adolescent en question était manifestement déjà connu pour être radicalisé. Donc un individu déjà surveillé et qui poste ce genre de message, il n'y a pas de doute sur le fait qu'a priori, le projet qu'il a en tête est sérieux.
Combien de personnes travaillent sur l'analyse préventive des passages à l'acte? Qui est derrière les ordinateurs et qui décrypte les messages envoyés?
Ce sont des agents de renseignement. Donc, en France, la lutte antiterroriste est structurée autour de la DGSI, c'est-à-dire le service de renseignement intérieur, qu'on connaît malheureusement beaucoup, puisque à chaque fois qu'il y a un attentat ou un projet d'attentat, on parle de ce service. Et donc, ce sont ces agents de renseignement. Vous savez, on fantasme beaucoup sur le renseignement. Le plus gros du travail, c'est du travail de bureau, justement, parce qu'il faut collecter des informations et puis il faut les traiter, il faut les analyser. C'est-à-dire, il faut comprendre quelles sont les informations qu'on a sous les yeux, faire des liens entre elles, travailler avec d'autres services de renseignement français, puisque la DGSI est le leader pour la lutte antiterroriste, mais tous les services de renseignement et tous les services de sécurité français contribuent. Et puis il y a aussi beaucoup de relations avec des services de renseignement étrangers, puisque la lutte antiterroriste, c'est quelque chose qui mobilise beaucoup de pays dans le monde, puisque beaucoup de pays sont menacés. Donc c'est un travail, essentiellement un travail intellectuel et un travail de bureau. Je ne veux pas démythifier ce qu'est le renseignement. Il y a aussi beaucoup de travail de terrain, et notamment dans le domaine de la lutte antiterroriste, il y a beaucoup de sources humaines, c'est-à-dire de gens qui sont recrutés dans les milieux islamistes, terroristes, et qui vont fournir à la DGSI des informations très utiles.
Les autorités ont communiqué très rapidement, alors évidemment ils n'ont pas tout dit, pour donner un certain nombre de détails. C'est assez rare quand même. Est-ce que c'est pour rassurer à son jour des JO?
Oui, vous avez raison, c'est assez rare que les services de renseignement ou les autorités françaises communiquent sur des sujets qui concernent les services de renseignement. Il y a d'une part le fait qu'il faut rassurer la population française sur le fait que ce travail de détection de projet terroriste est extrêmement efficace. Cette réussite en donne une preuve parfaite. C'est peut-être aussi pour essayer de dissuader des individus qui pourraient être tentés de passer à l'acte, leur montrer qu'ils vont être pris, donc ce n'est pas la peine qu'ils aillent plus loin, parce qu'ils peuvent passer beaucoup d'années en prison, même sans avoir perpétré un attentat, mais pour l'avoir simplement préparé, avoir eu un projet. Et je pense que c'est une très bonne chose aussi, parce que d'une certaine manière, ça rapproche les services de renseignement de la population. Et c'est très important que cette activité, qui est évidemment secrète, mais il faut aussi que la population sache de temps en temps ce qui se passe. Donc ça, c'est nouveau, c'est une tendance que je trouve excellente. Il faut parler des services de renseignement, il faut les valoriser, et il faut créer un lien plus fort qu'il n'est entre la population et puis ses services de sécurité.
Je vous remercie beaucoup, Jérôme Poirot, d'avoir Merci. Répondu à mes questions. Je rappelle le titre d'un de vos ouvrages, Le renseignement français en 100 dates, c'est chez Perrin. Merci à vous.
Merci.
Et merci à Perlam Sika pour le montage de cet épisode. Je vous rappelle que le titre à la une, c'est tous les jours du lundi au vendredi sur toutes les plateformes de podcast. Vous pouvez écouter également ce podcast tous les soirs à 19h30 avec Zachary Legros dans BFM Soir sur BFM Radio.